Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment, vraiment particulier. C'est le bulletin numéro 53 du Cartoclub Aveyronnais. Le titre, c'est « La femme rouergate dans tous ses états ». Et ce qui est génial, c'est que tout est illustré, tout le récit passe par des cartes postales anciennes et modernes.
C'est une approche qui est fascinante et d'ailleurs il faut vraiment saluer le travail collectif des auteurs. Ils sont tous membres du Cartoclub, Jean-Claude Vidal, Gilbert Régour, Guylaine Cayrel, Pierre Costecalde, Guy Mazard et Gérard Naudan.
Oui, un gros travail.
Absolument. Et une mention spéciale, je pense, à Guy Mazard. Il a non seulement écrit, mais il a été le rédacteur en chef et surtout le concepteur de toute la mise en page. C'est un travail d'orfèvre.
Tout à fait. Et nous, on va se concentrer sur deux chapitres qui nous ont particulièrement marqués, des pages 94 à 127. D'abord, on va parler des femmes aveyronnaises pendant les guerres.
Et ensuite, des célébrités de la région.
C'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment un objet aussi banal qu'une carte postale a pu servir de capsule temporelle. Est-ce que ces images nous donnent un portrait fidèle ou une version un peu idéalisée? C'est un peu ça qu'on va essayer de décortiquer.
C'est la grande question, oui. Parce que derrière chaque carte, il y a un choix. Qui on montre et comment on montre. C'est une forme de narration visuelle qui en dit très long sur son époque.
Allez, c'est parti. On commence avec la Première Guerre mondiale. Et là, le changement est brutal. Les cartes postales ne montrent plus seulement les femmes au champ, quoi.
Non, pas du tout. Soudain, elles sont au cœur du conflit. Et surtout, en première ligne du soin. Les infirmières.
Ah oui.
On voit apparaître tout un pan de la société qui était un peu invisible avant. Les cartes montrent des infirmières de la Croix-Rouge, bien sûr, mais aussi de l'Union des femmes de France ou de l'Association des dames françaises.
C'était des organisations civiles, en fait.
Exactement. Elles ont dû créer des hôpitaux auxiliaires un peu partout pour gérer l'afflux de blessés. Et on a des traces très concrètes de ça. Le bulletin reproduit, par exemple, un laissez-passer d'une infirmière à l'hôpital Sainte-Claire de Villefranche-de-Rouergue.
Donc ce n'est plus un rôle abstrait, c'est une fonction officielle documentée.
C'est ça. Et au milieu de cet effort collectif, il y a des destins individuels qui sont juste incroyables.
Celui de Marthe Lombard. C'est fou, cette histoire.
À raconter.
Elle est faite prisonnière par les Allemands et pendant sa captivité, elle réussit à cacher sur elle trois fragments du drapeau de son régiment, le 45e RTI.
Pour qu'il ne soit pas pris par l'ennemi.
Voilà. Et le plus fou, c'est qu'elle a été l'une des très très rares femmes à obtenir la carte de combattant 1914-1918.
Ce qui est exceptionnel. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, l'armée c'est une institution exclusivement masculine.
Bien sûr.
Obtenir ce statut, c'était une reconnaissance officielle que son courage, son action, valaient ceux d'un homme au front. L'idée même était révolutionnaire.
Donc cette carte, c'est pas juste un papier administratif, c'est un symbole politique.
Exactement. C'est la reconnaissance que le champ de bataille n'était pas que dans les tranchées, mais le grand basculement, il se produit aussi à l'arrière, dans les usines.
Ah, les munitionnettes!
Oui, le bulletin présente une carte photo très forte, celle des aciéries de France au Gouas. Et elles ne sont pas juste en train de travailler.
Non, elles sont en grève, en octobre 1917, en pleine guerre. C'est énorme!
C'est ça, le point de bascule! Le fait qu'elles se mettent en grève pour contester un nouveau tarif, ça montre quoi? Ça montre que cette nouvelle place dans l'économie leur a aussi donné une conscience politique, un pouvoir de négociation.
Qu'elles n'avaient pas avant.
Jamais. On passe de l'image de la femme qui attend passivement au foyer à celle de l'ouvrière qui revendique. Cette carte postale de la grève, ce n'est pas juste une photo, c'est le document d'une révolution sociale en marche.
Et cette prise de conscience, ce rôle nouveau, on va les retrouver amplifié 20 ans plus tard, mais dans un contexte encore plus sombre.
L'occupation, la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et là, les récits sont encore plus forts parce que tout est clandestin, les risques sont immenses.
Le bulletin met en lumière des figures vraiment extraordinaires.
Alors là, on tombe sur un parcours, mais incroyable. Celui d'Odette Beliakov, qui deviendra Odette Garcia. On part d'une glaneuse de charbon sur les terrils d'Ekaisville. Et on arrive à une commandante des FFI. Comment c'est possible, enfin?
C'est l'histoire d'un engagement total. Elle commence comme agent de liaison pour le maquis d'Oliès, une mission déjà extrêmement dangereuse.
On imagine, oui.
Et par son courage, son intelligence, elle gravit les échelons jusqu'à être promue commandante. Il y a une carte photo d'elle qui est très poignante lors du défilé des FFI à Rodez le 2 septembre 1944.
On la voit en uniforme au milieu des hommes. C'est l'image d'une autorité qui a été gagnée sur le terrain.
Complètement. Et elle n'était pas un cas isolé, hein.
Non, le bulletin montre que c'était tout un réseau de femmes.
Oui, et souvent des femmes qu'on n'aurait jamais soupçonnées. On parle de Madame Lacan, décrite comme une paisible commerçante.
Et en secret, elle fabriquait de fausses cartes d'identité et cachait des familles juives.
Voilà, ou encore Laurette Latour, Jeannine Loubière, Paulette Solery, des noms qui ne sont pas dans les grands livres d'histoire, mais dont les actions, mises bout à bout, ont constitué l'ossature de la résistance locale.
Mais le bulletin n'oublie pas la page la plus sombre, la persécution, la déportation.
Non.
Le récit du sort de Suzanne Waligora, une jeune juive raflée à Rodez, survivante d'Auschwitz, c'est glaçant. Et celui des sœurs Madeleine et Jeannine Blum, arrêtées dans leur lycée à Rodez.
C'est un rappel terrible de la réalité de l'époque. Une plaque commémorative leur rend hommage aujourd'hui d'ailleurs. Ces cartes postales qui montrent des rues de Rodez, elles prennent une autre dimension quand on sait ce qui s'y est joué.
Mais face à cette barbarie, le bulletin met aussi en avant une autre forme de courage, plus silencieux peut-être.
Celui des justes parmi les nations.
Des gens qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres.
Exactement. On a l'exemple de sœurs Denise Bergon et Marguerite Roch au couvent de Massip. Elles ont réussi à cacher et à sauver 83 enfants juifs. Imaginez la logistique, le secret, le danger permanent.
C'est inimaginable.
Ou encore Eva Dolly, qui a organisé le passage en zone libre pour une famille entière, avec des bébés. Ce sont des actes d'une humanité qui refuse de plier.
Et c'est sans doute en reconnaissance de tous ces rôles, du soin à la résistance, qu'on voit un premier changement après la libération. Le bulletin se termine sur cette note. Lucie Maynadière est nommée au conseil municipal de Rodez en septembre 1944.
L'entrée encore timide des femmes en politique. C'est une suite logique, en quelque sorte. Après avoir participé si activement à sauver le pays, il devenait difficile de leur refuser une place dans sa reconstruction.
Après ces récits de guerre qui sont intenses et souvent tragiques, le bulletin nous emmène dans un tout autre univers, celui des célébrités aveyronnaises. Et on commence très fort, avec une figure militante qui semble venir tout droit du futur, Antoinette Durand-Degros.
Surnommée la citoyenne Sorgue, c'est une féministe et socialiste, mais à une époque où ces mots n'avaient pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Les cartes postales de l'époque la montrent en train de haranguer les foules. Pour une femme, c'était déjà une transgression.
Elle soutenait les grèves, c'est ça?
Oui, les grandes grèves des mineurs à Decazeville et aussi celles des cabanières de Roquefort en 1907.
Et politiquement, elle était en avant sur tout le monde.
Ah oui, au congrès de la SFIO, donc l'ancêtre du Parti socialiste, elle réclamait déjà le droit de vote pour les femmes. On est au tout début du XXe siècle. C'était une voix incroyablement visionnaire.
On change complètement de registre, mais pas d'influence, avec une autre figure, Sainte-Émilie de Roda.
Là, on est dans la célébrité spirituelle. Elle a fondé à Villefranche-de-Rouergue l'Institut de la Sainte Famille.
Pour l'instruction des enfants pauvres.
C'est ça. Son influence a été immense. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment son image de marque, en quelque sorte, a été diffusée massivement par des portraits, des images pieuses.
Et qui étaient les cartes postales de l'époque, en fait.
Tout à fait. Le bulletin en montre une tirée d'un cliché d'un grand photographe parisien, Pierre Petit. C'est la construction d'une icône.
Et en parlant de femmes qui ont dû se faire une place, le bulletin nous fait découvrir des pionnières dans des mondes d'hommes. Je suis tombé sur le nom de Calixtina Bach, présentée comme l'une des premières femmes astronomes. C'est fascinant.
C'est un parcours remarquable. Elle a travaillé à l'Observatoire de Lyon et c'est elle qui assurait les prévisions météo quotidiennes pour la ville.
Rien que ça.
Exclusivement masculin, c'est une performance incroyable. C'est une de ces femmes qui ont ouvert la voie, sans faire de bruit, mais en prouvant par leurs compétences que le genre n'avait rien à voir avec l'intellect.
Et dans ce même groupe de pionnières, on pourrait mettre les femmes de lettres.
Absolument. On découvre Pauline de Flaugergue, une poétesse et polyglotte du XIXe siècle.
Admirée par George Sand, elle-même, ce qui n'est pas rien.
Non, c'est une sacrée référence. Et plus près de nous, un nom qui a eu son heure de gloire, Camille Marbeau.
Le pseudonyme de Marguerite Borel. Elle a remporté le prix féminin en 1913.
Oui, et sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue présidente de la Société des gens de lettres, une institution très prestigieuse. Et c'était aussi une amie proche de Marie Curie.
Quand on met ces noms côte à côte, Calixtina Baroque en sciences, Camille Marbeau en littérature, on voit un même mouvement de fond. Des femmes qui percent le plafond de verre de leur époque.
Par la seule force de leur talent.
Mais la célébrité aveyronnaise la plus éclatante, celle qui a rayonné à l'international, c'est sans doute la cantatrice Emma Calvé, la diva.
Ah, Emma Calvé. Elle est née dans l'Aveyron, mais sa voix l'a emmenée sur toutes les plus grandes scènes du monde. Son interprétation de Carmen de Bizet était légendaire. C'était une véritable superstar.
Le bulletin montre une affiche de 1923 pour des fêtes organisées en son honneur à Milo. Le pays tout entier célébrait son retour.
C'était plus qu'une chanteuse. C'était une icône nationale qui n'oubliait pas ses racines. Elle a d'ailleurs acheté et restauré le manoir de Cabrières.
Fête anniversaire de sa naissance en 2008. Bien sûr.
Mais on ne peut pas parler de l'Aveyron sans parler de nourriture. Et là, le bulletin met à l'honneur une figure incroyable, Germaine Gros.
La reine de l'Aligot. Et ce n'est pas un surnom usurpé. C'est elle, dans son auberge sur le plateau de l'Aubrac, qui a popularisé la manière de servir l'Aligot qui est devenue la norme.
Le fameux filet.
Exactement. Avant elle, l'Aligot, bon, c'était une purée riche. Elle a transformé le service en un véritable spectacle, en l'étirant, en le faisant filer sur plusieurs mètres entre la marmite et l'assiette. Elle a compris avant tout le monde que la gastronomie, c'est aussi de la mise en scène.
C'est une expérience.
Une expérience. Elle a transformé un plat de subsistance en une institution culinaire et un moment de fête.
C'est formidable. Pour finir cette galerie, les dernières pages du bulletin font un pont avec aujourd'hui. On y voit des tartes postales modernes de femmes aveyronnaises au travail. Les coutelières, Madame Bernat, fermière. Les coutelières, Isabelle et Laurette Calms.
Ou encore la potière Florence Boudou. C'est une très belle façon de boucler la boucle. Ça montre que la carte postale, même si on l'utilise moins, continue de jouer ce rôle de témoin. Elle documente le travail, le savoir-faire de ces femmes d'aujourd'hui et elle assure la transmission de cet héritage.
Ce qui est vraiment frappant en refermant ce bulletin, c'est de réaliser à quel point un objet aussi simple, aussi quotidien qu'une carte postale devient une archive d'une richesse folle. Elle n'a pas seulement figé les paysages, elle a surtout capturé les visages, les postures, les histoires de ces femmes qui ont, chacune à leur manière, façonné la région.
Oui, et on en revient à notre question du début. Ces cartes, c'était le média visuel de masse du début du XXe siècle. Elles choisissaient qui représenter et comment. Elles ont à la fois reflété la société et contribué à forger ses représentations. L'infirmière dévouée, l'ouvrière revendicatrice, la résistante, l'artiste.
Et ça nous amène à réfléchir à notre propre époque.
C'est une excellente question. Quelles sont les cartes postales d'aujourd'hui? Quels médias? Quels comptes Instagram? Quelles images laisseront aux générations futures une trace de l'histoire, des visages, des combats, des femmes de nos régions? Et surtout, quel portrait tout ça dessinera-t-il de notre temps ?